Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'Algérie va-t-elle tenir son rang à l'international ? Un nouveau président pour l'Algérie, par intérim. Abdelkader Ben Salah a été désigné ce mardi pour succéder à Abdelaziz Bouteflika. Il ne devrait être que de passage, 90 jours maximum, le temps d'organiser un nouveau scrutin présidentiel. Les manifestants y voient une façon pour le régime de se maintenir. Il faut dire que cette stabilité du régime algérien arrange beaucoup de monde, à l'extérieur du pays notamment. L'Algérie est un gros fournisseur d'hydrocarbures. Surtout, c'est un des principaux acteurs de la lutte contre le terrorisme islamiste. Ses partenaires ont intérêt à ce que les changements politiques à venir ne bouleversent pas la coopération en la matière. Et c'est sans doute ce qui explique en partie le fait que ce pays, le plus étendu d'Afrique, le plus vaste du monde arabe et du bassin méditerranéen, pèse finalement si peu au niveau diplomatique, en tout cas si peu au regard de sa géographie et de ses ambitions historiques, celles de la période ayant suivi l'indépendance. L'Algérie n'apparaît pas aujourd'hui comme une grande puissance dans ses zones d'influence. Les changements politiques en cours vont-ils modifier la donne et l'Algérie va-t-elle tenir son rang à l'international ? C'est le sujet de discussion de ce soir en compagnie de trois invités. Akram Belkaïd, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au quotidien d'Oran. Vous venez de publier aux éditions Talendier « L'Algérie, un pays empêché ». Un livre en 100 questions dans lequel vous consacrez notamment un long chapitre sur l'Algérie et son rapport au monde. Pour discuter avec vous, Béliar Nabli, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche à l'IRIS, l'IRIS Institut de
relations internationales et stratégiques.
Maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes le directeur du site chronique.fr et je renvoie votre géopolitique de la Méditerranée que vous avez publié chez Armand Collin. C'était en 2015. Et puis notre troisième invité est au téléphone. Il s'agit d'Anne-Clémentine Larocque. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en questions internationales à Sciences Po. On vous doit au PUF en 2018, l'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc. Et puis chez le même éditeur, deux ans plus tôt, une géopolitique des islamismes. Alors il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui et depuis déjà quelques semaines sur la situation politique en Algérie. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation important pour les voisins directs de ce pays ? Est-ce que ce qui se passe en Algérie peut avoir un impact sur les pays frontaliers, Béliar Nabli?
Oui, paradoxalement, l'une des lignes fondatrices et structurantes de la diplomatie algérienne consiste à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures, y compris de ses pays voisins. Mais au regard de l'exigence et l'impératif de stabilité de ses propres voisins, l'Algérie est devenue un acteur incontestable et de ces régimes-là, en particulier de la Tunisie, du Mali et je dirais même du Niger, où l'Algérie, en tant que puissance militaire qui a les capacités sécuritaires à la fois d'assurer la stabilité et, des frontières communes et de mener la lutte contre des groupes terroristes qui intéressent les différents pays en question, l'Algérie est un acteur interne de ses voisins sans l'avoir voulu. Et c'est un paradoxe qui structure la réalité régionale.
Anne-Clémentine Larocque, la capacité militaire et la position stratégique du point de vue sécuritaire de l'Algérie fait que les voisins alentour sont forcément très attentifs à ce qui se passe à l'intérieur.
Ah oui, ils sont tout à fait attentifs, et notamment le Maroc, qui craint beaucoup qu'il y ait une contagion de ce qui peut se passer au niveau populaire, au niveau de la sécurité des frontières marocaines. Vous savez qu'il y a une absence en fait de communication depuis le problème avec le Front Polisario et le Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie. Et effectivement, ils ont des craintes quant à la porosité de ce qui peut se passer. C'est pareil pour la Tunisie. En fait, ces deux pays, Maroc et Tunisie, sont quand même concernés par ce qui s'est passé en 2011. L'Algérie a eu les reflux aussi, a pu sentir les reflux de la révolution de Jasmin en Tunisie et de ce qui se passait au Maroc. Et donc, effectivement, il y a une intrication, bien sûr, et il y a un regard qui est tout à fait porté et qui est tout à fait obsessionnel par rapport à ce qui se passe en Algérie pour les dirigeants de ces deux pays, c'est certain.
Alors, cette intrication, elle peut paraître logique. Quand on a des frontières communes, évidemment, ce qui se passe dans un pays a des répercussions sur les autres. Mais Béliar Nabli relevait une sorte de paradoxe d'avoir un pays qui est plutôt replié peut-être sur ses frontières, de voir à quel point, malgré tout, ce qui s'y passe a des conséquences en externe. C'est aussi votre avis, Akram Belkaïd ?
Il y a une convergence entre plusieurs réalités, c'est-à-dire que en Algérie, il y a une doctrine très claire qui est d'ailleurs l'une des rares choses sur lesquelles convergent la population et le pouvoir, quelle que soit sa dénomination, c'est la non-ingérence dans les affaires d'autrui. C'est-à-dire qu'il y a une réticence énorme en Algérie à se projeter dans les affaires d'autrui et donc, par exemple, officiellement, l'armée algérienne est une armée défensive. Elle n'a pas vocation à aller intervenir au-delà de ses frontières. Cela au grand dam parfois de certains de ses alliés ou partenaires, notamment occidentaux, qui à un moment, par exemple, ont avancé l'idée que l'Algérie pourrait aller faire le ménage un peu dans l'ouest de la Libye et désarmer certaines milices. En Algérie, il y a un refus, effectivement, d'aller s'immiscer dans les affaires des voisins. Bien entendu, il y a eu plusieurs périodes où l'Algérie a été plus influente que d'autres. Pendant très longtemps, elle a considéré, par exemple, le Sahel comme étant sa zone d'influence, je dirais, quasi naturelle. La diplomatie algérienne sur le continent africain, à un moment donné, s'est beaucoup déployée. C'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a eu une époque où, effectivement, la diplomatie algérienne était très active. Mais parmi les partenaires qui s'inquiètent aussi de la situation algérienne, il y a aussi l'Europe, parce que l'Algérie contribue à l'indépendance énergétique de l'Europe. En tous les cas, avec l'Algérie, il y a une moindre dépendance, par exemple, au gaz russe, ce qui donne une marge de manœuvre aux Européens. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi plusieurs régimes européens, y compris français, plusieurs États européens, y compris français, ont été aussi à ce point aussi accommodants avec la farce que les Algériens ont subi au cours de ces dernières années, à savoir le fait d'avoir un président qui ne présidait absolument pas.
On peut d'ailleurs peut-être imaginer que la position si singulière qu'occupe l'Algérie sur, on va dire, à l'échelle internationale, si elle n'est pas liée aussi à, non seulement à une forme de, à la doctrine que vous évoquiez, Akram Belkaïd, mais aussi aux attentes qui sont faites par les autres pays, c'est-à-dire besoin d'un pays stable au regard, justement, donc, de son rôle sur les questions sécuritaires, c'est ce qu'on a déjà abordé, Belir Namli, mais aussi son rôle en termes de puissance qui exporte énormément d'hydrocarbures. Ça n'est pas le seul, bien sûr, pays à exporter du pétrole et du gaz, mais en tout cas, c'est un pays important sur ce plan-là également.
Oui, vous avez raison, ce qui permet aussi de souligner une double centralité, une centralité de l'Algérie dans la région à la fois maghrébine, nord-africaine et entre la région subsaharienne et l'Europe. Autrement dit, faut pas imaginer ou faut pas concevoir la mer Méditerranée comme une frontière réelle. Il y a une forme de continuité. D'ailleurs, c'est l'un des points les plus intéressants du premier discours du président de la République Emmanuel Macron aux ambassadeurs en septembre 2017, où il a précisément développé une conception stratégique où il considérait que il y avait finalement des enjeux pour la France qui se jouaient dans un axe qui menait finalement à la région subsaharienne, mais cet axe passe par l'Algérie, par l'Afrique du Nord en particulier, aspect qui semblait avoir été plutôt ignoré jusque-là par ses prédécesseurs. Donc il y a un retour en force de l'Afrique du Nord comme zone stratégique, y compris pour les pays européens. Or, reconnaître cette réalité-là, c'est placer l'Algérie au cœur de l'échiquier géopolitique, y compris euro-méditerranéen.
Et est-ce que du coup, pour vous, Belir Namli, ça fait de l'Algérie, cette centralité, une puissance régionale importante ?
Déjà, de facto, c'est une puissance régionale importante. Première puissance militaire, première puissance énergétique, et puis puissance démographique, etc. Donc, du point de vue classique de la puissance, on retrouve tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle le hard power, qui est dans les mains de l'Algérie, ce qui n'est pas de nature non plus à omettre les faiblesses structurelles de ce pays. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que du côté du soft power, c'est là où on voit le pendant ou les conséquences de cette stratégie prudentielle. Hein. L'Algérie n'utilise pas un certain nombre d'éléments qu'elle pourrait utiliser comme levier pour être plus influente. Je pense notamment à l'immigration algérienne, aux immigrés algériens qui existent, mais qui ne sont pas conçus comme des, non pas des armes, mais en tout cas comme des représentants de la puissance algérienne à l'extérieur. Et par contraste, je voudrais souligner justement l'exemple turc où le président Erdogan, pour lui, finalement, l'immigration turque en Europe est une forme de bataillon avancé.
Anne-Clémentine Larocque, vous considérez-vous aussi que l'Algérie pourrait être davantage influente qu'elle ne l'est aujourd'hui et peut-être utiliser encore davantage les éléments de puissance qui sont à sa disposition aujourd'hui ?
Oui, je suis absolument d'accord avec cela. Je pense qu'en fait, on est vraiment dans une phase de transition actuellement avec un héritage, bien sûr, de la politique extérieure de Boumédienne, repris d'ailleurs par Bouteflika, c'est-à-dire effectivement, on se concentre sur le pays, on essaie de pas faire d'ingérence, on est anticolonialiste, on est pour la cause palestinienne, et en même temps, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même une velléité d'exister à l'échelle de la Méditerranée, comme vous l'avez dit, mais aussi en Afrique, hein, on voit bien aussi que le roi du Maroc fait ça aussi très bien en termes d'affichage de sa politique africaine, et c'est vrai que très clairement, institutionnellement, l'Algérie veut exister dans l'Union africaine, dont elle a favorisé d'ailleurs la création. Il y a une volonté d'exister à plusieurs échelles. Après, on est vraiment dans un moment particulièrement tendu et sensible pour déterminer justement quels vont être les enjeux stratégiques et les lignes qui vont être suivies de manière plus claire encore par le futur président éventuellement.
Vous dites qu'elle veut exister au niveau de l'Union africaine. Pour autant, l'Algérie se sent-elle africaine ? C'est une des questions que vous posez justement dans votre livre Akram Belkaïd. Vous y répondez plutôt par la négative. En tout cas, pas complètement par l'affirmative. Bien sûr, l'Algérie est en Afrique. Mais les Algériens regardent, en tout cas jusqu'à présent, regardaient assez peu vers son sud.
Disons qu'il y a eu une régression en la matière. C'est-à-dire que quand on compare ce qu'était l'Algérie des années 60, des années 70, son soutien accordé à nombre de pays, de mouvements, je dirais, progressistes, de mouvements indépendantistes, anticoloniaux. Je rappelle que l'une des visites de Nelson Mandela en Afrique du Nord s'est faite en Algérie dans les années 60. Eh bien, tout cela s'est un peu perdu avec un pays qui a commencé à ne regarder que lui-même et à oublier qu'effectivement il y avait autre chose que le Nord, ce Nord que certains désirent à tout prix, quitte à y perdre la vie en traversant la Méditerranée, et l'absence aussi de discours politique, je dirais, fédérateur, parce que les liens avec un pays, avec une région, ça se cultive aussi au niveau d'une politique, et on a rarement entendu des dirigeants algériens, notamment ces 20 dernières années, affirmer l'identité africaine algérienne. Résultat de tout cela, comme on l'a dit, effectivement, l'Algérie est aussi une zone de passage, de transit. Beaucoup de migrants subsahariens, voire de plus loin, viennent essayer de passer par l'Algérie pour rejoindre l'Europe. Ils vivent, ils sont retenus. Il y a un verrou algérien, ils sont retenus en Algérie. Et donc, ils se retrouvent confrontés parfois à des phénomènes, je dirais, d'exclusion, de racisme, de xénophobie, parfois qui sont entretenus par certains responsables politiques algériens. Et c'est en la matière une grande régression par rapport à ce que fut l'Algérie, je dirais, dans les années 70 et 80.
Alors, ce que fut l'Algérie, justement, dans ces années-là, était incarné par celui qui, jusqu'à ces dernières semaines, l'a incarné aussi, en tout cas du point de vue de la politique étrangère, parce qu'il faut rappeler que Abdelaziz Bouteflika, avant d'être président de la République algérienne, a été pendant de nombreuses années ministre des Affaires étrangères. Il l'est à partir de 1963, il a seulement 26 ans, ça va durer jusqu'en 1979. Et écoutez cette archive, c'est Abdelaziz Bouteflika, donc, qui est le chef de la diplomatie algérienne en 1967, et il s'exprime à propos des luttes de décolonisation et du soutien que l'Algérie pourrait apporter aux autres pays arabes.
Si la lutte avait effectivement continué dans les pays arabes de la région, l'Algérie résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde, l'Algérie aurait fait son devoir de solidarité vis-à-vis des pays arabes. Et si cela n'aurait été qu'un devoir de solidarité, nous l'aurions fait. Si nous n'avons pas eu l'occasion de le faire complètement, nous revendiquons la responsabilité d'avoir voulu le faire et de continuer à vouloir le faire si effectivement il y a une lutte.
J'aimerais bien avoir votre avis à tous les trois par rapport à cette archive. Béliard Nabli, Anne-Clémentine Larocque et Akram Belkaïd. L'Abdelaziz Bouteflika qu'on entend en 1967, il est très différent de celui qui va présider aux destinées de l'Algérie, Belir Nabli.
Oui, c'est une déclaration, une interview très datée, mais ça s'explique. On est dans un contexte marqué encore par l'après-guerre de libération, qui a été portée elle-même par un discours tiers-mondiste, dans un contexte en plus de guerre froide où l'Algérie s'est rapidement positionnée finalement. Et le contexte, au contraire, dans lequel s'inscrit la présidence, en tous les cas le premier mandat de Abdelaziz Bouteflika, est un contexte d'après-guerre aussi, mais d'après-guerre civile. Et donc l'enjeu était la stabilisation et la sécurisation du territoire national. Il s'agissait de se concentrer, de se focaliser sur l'ordre interne avant de s'intéresser à l'ordre international ou même régional. Et de ce point de vue-là, le défi a été plutôt relevé, il faut bien le reconnaître, du côté d'Abdelaziz Bouteflika, mais avec ce résultat, à savoir finalement que le rayonnement international de l'Algérie n'est plus ce qu'il était, y compris par rapport à des dossiers aussi symboliques que le conflit israélo-palestinien. En même temps, il y a un affichage. L'Algérie continue à essayer de faire montre d'une forme de cohérence et de continuité en la matière, mais on est dans la rhétorique, dans le discours. En termes de moyens et d'action, on est très loin de ce discours-là. Au contraire, il y a véritablement un repli sur soi et une stratégie prudentielle, encore une fois.
Akram Belkaïd, l'Algérie a pu être un modèle pour le reste du monde arabe et ne l'est plus, ou en tout cas l'est moins aujourd'hui.
Elle a été un modèle d'abord par sa guerre d'indépendance, qui a beaucoup, qui est resté dans les mémoires, qui continue à être évoqué. Effectivement, il y a cette Algérie des années 60, 70, non-alignée, qui organise le sommet des non-alignés en 1973, qui soutient les oppositions diverses et variées, Alger capitale, en tout cas mec des révolutionnaires, hein, c'est la formule est connue. Mais pour en revenir à votre question sur Bouteflika, et par rapport à ce qu'il disait en 67, au risque de paraître très méchant, je dirais que Bouteflika existait parce que Boumediene était là. Et que Bouteflika, sans vouloir faire l'apologie ni une espèce d'agiographie de l'ancien président algérien Boumediene, Bouteflika était non pas le maître d'œuvre, mais était un peu le, je dirais, celui qui appliquait les grandes directives de quelqu'un qui était à son supérieur. Son premier mandat à Bouteflika a effectivement consisté à sillonner le monde entier. Les Algériens se sont très vite aperçus qu'il était plus souvent à l'étranger qu'au pays. Et ça, c'est ce qui a déjà, à l'époque, contribué à donner des arguments à ceux qui étaient contre déjà un second mandat. Et le résultat a effectivement été un retour plus ou moins symbolique de l'Algérie. Quelques projets lancés, notamment sur le plan africain avec le projet du NEPAD. Mais en réalité, le bilan, si on devait dresser un bilan aujourd'hui, c'est très maigre par rapport à l'influence de l'Algérie, ne serait-ce que sur le plan, je dirais, continental.
Juste un mot, le projet du NEPAD.
Alors le projet du NEPAD, c'est un projet qui a été lancé par plusieurs pays africains pour, je dirais, industrialiser, contribuer à ce que les économies du continent deviennent de vraies économies émergentes. Donc vous aviez une espèce de dynamique voulue à la fois par l'Afrique du Sud, par le Nigeria, par l'Algérie, sur plein de projets d'infrastructures. Officiellement, ça existe encore, mais la dynamique s'est vraiment ralentie et on n'en parle presque plus aujourd'hui dans les médias, ne serait-ce que par juste de simples incantations qui ne donnent rien.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, pour reprendre ce qui a été dit dans l'affirmative, je pense que les années 60, il faut quand même rappeler qu'on est en pleine guerre froide à nouveau, que l'idéologie fait partie totalement des moteurs de puissance des États et des blocs, et que l'Algérie, effectivement, incarne ce qu'on appelait donc le phare du tiers-monde, ou le tiers-monde arabe notamment, ou des non-alignés. Ça a quand même énormément évolué. Effectivement, la trajectoire de Boumediene a été reprise par celle de Bouteflika, et à partir des années 2000, on est vraiment face à un changement aussi à la fois mondial, régional et national. C'est-à-dire que vous sortez de la décennie noire des années 90, on arrive aussi dans ces années où le terrorisme islamiste va aussi finalement avoir des conséquences sur le repli de la puissance algérienne sur elle-même. Et enfin, les printemps arabes de 2011, qui vont faire craindre aussi aux Algériens, bien sûr, une contagion, on en a parlé tout à l'heure, et qui va permettre, en fait, et encore contribuer à cette fermeture de la politique étrangère. On le voit par exemple sur le fait de ne pas vouloir de tout faire partie du G5 Sahel qui a été créé donc sous l'égide de la France, vous le savez, par 5 pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme au Sahel. L'Algérie s'est vraiment portée en faux, c'est-à-dire que c'est vraiment mise à l'extérieur de ce projet-là et dit gérer de toute façon son terrorisme islamiste de manière indépendante et autonome, à gérer avec le Mali, avec les accords d'Alger, mais globalement, on a quand même une transformation du contexte qui est telle que on peut plus véritablement comparer effectivement l'influence de l'Algérie dans ces années-là avec celle actuelle, quoi. Je veux dire,
est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être une source de ressentiment justement pour la population algérienne ou en tout cas de nostalgie, disons, Ilyar Nabi, de se dire bah voilà, l'Algérie a pesé à une époque autrement qu'elle ne pèse aujourd'hui et on aimerait aussi que notre pays soit un peu plus proactif, disons, au moins de manière régionale. Que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le bassin méditerranéen.
Les Algériens demeurent patriotes, voire nationalistes. Hein. Ça reste un trait de l'identité algérienne qui s'explique par, justement, une accession à l'indépendance par une guerre, via une guerre qui reste très, très, très ancrée dans la mémoire collective. Et donc, il y a cet orgueil national qui fait que... l'imaginaire collectif place l'Algérie non pas au centre du monde, mais quand même avec un rôle dans l'ordre international. Mais dans le même temps, la population a pris acte, je pense, d'une forme de déception, une forme de dépassement de cet âge d'or. Alors, sans basculer pour autant dans une forme de nostalgie, une forme de lucidité sur le fait qu'il y a une concentration d'abord autour de la condition économique et sociale du citoyen algérien lambda, une condition qui contraste avec la richesse, les richesses nationales. Et c'est peut-être cette obsession-là qui habite les Algériens, notamment ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui soulignent précisément cette déception fondamentale face à un pays à la fois riche de sa population et de ses richesses naturelles, et de l'autre, une incapacité à gérer finalement ces richesses-là. Plutôt que d'essayer de rejouer un rôle central ou de vitrine internationale, il n'y a plus cette ambition-là, même si, encore une fois, et ça s'est vu pendant les différentes manifestations, ce qui se passe à travers la société algérienne a un écho dans les sociétés arabes, notamment avec le thème de la dignité humaine, avec le thème également de la lutte contre la corruption des élites. Donc là, il y a une vraie thématique transnationale et l'Algérie, la société algérienne joue son jeu, son rôle. Et puis toujours ce fil conducteur qui est la cause palestinienne, parce qu'elle dépasse le cas du conflit israélo-palestinien. Il y a des valeurs, des idéaux derrière.
Vous êtes d'accord en tout cas, Clémentine Larocque, pour dire qu'il n'y a plus cette ambition de peser comme a pu peser l'Algérie dans les années qui ont suivi l'indépendance?
Bah, de toute façon, je pense qu'on est aussi en plein changement de génération. Hein. C'est la donne démographique algérienne, elle est fondamentale pour comprendre ce qui se passe également. Dans le livre justement de Monsieur Belkaïd, il est noté que trois Algériens sur quatre ont moins de 50 ans. Voilà, c'est une donne qui est commune d'ailleurs hein, aux pays qui ont connu les printemps arabes, notamment l'Égypte. Vous avez 50% de la population qui a quasiment moins 25 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense, pour lire les ambitions de cette génération qui, effectivement, a connu la décennie noire, encore une fois, des années 90, a été marquée par des discours, mais a été aussi marquée par ce qui se passait à côté. Et cette génération a vécu aussi 2011, a écouté, a entendu. On a quand même aussi le même phénomène hein, des youtubeurs et des blogueurs qui commencent à avoir aussi une attention spécifique, en appelant à l'abstention par exemple en 2017. Donc on a véritablement vraiment un moment encore de transition au niveau des générations. Et c'est encore le même problème, hein, c'est ce qui se passe en Tunisie, c'est que précisément les générations qui sont au pouvoir ne sont plus du tout dans la même réalité que ces jeunes qui veulent avoir envie de futur et de projet.
La question justement générationnelle, Akram Belkaïd, elle permet de comprendre ce que sont les ambitions de ceux qui ont conservé le pouvoir depuis l'indépendance par rapport aux nouvelles générations, c'est-à-dire ce ne sont pas des ambitions du même ordre, ou bien il y a quand même une forme de convergence sur l'idée de ce que doit représenter l'Algérie dans la région, au Maghreb, en Afrique et plus largement dans le bassin méditerranéen.
Je pense que la revendication première des gens qui manifestent aujourd'hui, et notamment de la jeunesse, La revendication première, c'est lié tout de même à la situation nationale. C'est-à-dire qu'on ne manifeste pas dans les rues d'Alger pour reprocher au gouvernement ou au pouvoir algérien le fait que l'Algérie ne fasse pas partie du G20, par exemple, qu'elle n'ait pas été invitée à faire partie de cette instance informelle qui est vécue comme une consécration par d'autres pays. Je veux citer par exemple l'Arabie Saoudite qui, elle, en fait partie. Non, les gens se manifestent parce qu'ils voudraient une Algérie un peu plus démocratique, plus transparente, avec moins de corruption. Ceci étant dit, effectivement, les gens ont tout de même conscience que, et notamment au niveau de chez certaines élites, que quelque chose ne va pas, y compris dans la projection internationale de ce pays. Et je prends un exemple. Il y a un an à peu près, le patronat, alors de divers patrons, certains sont proches, étaient proches plus ou moins du clan Bouteflika, etc. Mais le patronat a émis des critiques en disant, écoutez, on ne comprend pas, notre voisin marocain, le Palais Royal, le roi, soutient les entreprises qui vont à l'assaut des marchés africains. Le Maroc est engagé dans une offensive tout azimut dans les grands marchés, notamment l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, etc. Quid de l'Algérie ? Et effectivement, la seule réponse du pouvoir algérien, de représentant du pouvoir algérien, de la diplomatie algérienne, a été plus d'insulter le voisin marocain plutôt que d'expliquer pourquoi justement la diplomatie algérienne n'était plus mobilisée pour permettre par exemple à des entreprises de génie public ou des entreprises d'informatique d'aller gagner des contrats au Rwanda, au Zimbabwe ou que sais-je encore. Et donc voilà un peu, il y a aussi cette idée que finalement il y a eu une détérioration en tous les cas, que l'appareil diplomatique est semble-t-il moins capable que par le passé d'aller obtenir des choses. Et deuxième grande critique, toujours lié au Maroc, c'est que tout de même, le Maroc a refait son retour au sein de l'Union africaine, dont il était parti pendant très longtemps à cause de la question de la palestinienne, et que ce retour a démontré une chose, c'est que dans l'équilibre des comptes, l'Algérie avait perdu plusieurs soutiens, en tout cas relais, ou voire même certains clients qui jadis faisaient ce que Alger leur demandait de faire et qui aujourd'hui sont plus enclins à soutenir les efforts marocains de réintégrer la grande famille africaine.
S'il y a un pays qui doit servir de repère à l'Algérie aujourd'hui, c'est le Maroc, mais c'est plutôt en termes de modèle ou en termes de repoussoir, Belir Nabli ? Ou un peu des deux peut-être ?
En tout cas, il y a une vraie différence. C'est vrai qu'ils ont bien, ils ont beau l'air, enfin, ils sont deux voisins dont les histoires contemporaines sont assez parallèles, voire liées, mais incontestablement, ils ne cessent de s'éloigner l'un de l'autre, même d'un point de vue des stratégies suivies ces dernières années. L'un est offensif, le Maroc, l'autre est sur la défensive, incontestablement, replié sur son territoire national et son ordre interne, l'Algérie. Donc il y a là un fort contraste, mais qui précisément interroge la puissance de l'Algérie en Afrique et dans les relations avec l'Europe, ce qui à un moment donné pourrait susciter une réaction algérienne, parce que on imagine que précisément on a quand même une institution militaire notamment, et aussi un patronat qui conçoit la géopolitique au-delà de la simple protection du territoire national. Et donc à un moment donné, la montée en puissance du Maroc peut susciter en réaction une stratégie plus offensive de l'Algérie. Alors, sous quelle forme, on ne sait pas encore, même si on commence à voir des signaux, y compris sur le plan économique, où j'ai vu que ces derniers mois, notamment, l'Algérie ne commençait à augmenter ses exportations, y compris pour des produits alors agricoles, certes, mais aussi manufacturiers, vers la Mauritanie et plus loin encore, une forme de tournant, une accélération, une intensification, peut-être un premier pas vers une reconquête des marchés africains.
Cette rivalité, elle n'existe pas, ou en tout cas pas de la même manière avec la Tunisie, Anne-Clémentine Larocque ?
Oui, c'est tout à fait différent. C'est pas du tout la même histoire. C'est vrai que, comme il a été rappelé, le Maroc est sorti de l'Union africaine à cause du problème du Sahara occidental, qui donc a mis en lien, bien sûr, l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, qui voulait cette petite partie du sud du Maroc, qui est contestée par le Front Polisario. Donc ça a été une première chose. Ensuite, vous avez aussi des fonctionnements totalement différents au niveau même de la place de l'autorité, c'est-à-dire que le roi Mohamed VI, qui est commandeur des croyants, à la volonté aussi, la velléité d'incarner un peu ce qu'on appelle l'islam du juste milieu en Afrique, d'avoir une influence, hein, un soft power qui passe par le religieux, là où les militaires algériens n'ont pas du tout cette vocation-là. Par rapport à la Tunisie, les choses sont aussi assez complexes, parce que la Tunisie, comme vous le savez, est en plein moment de démocratisation, avec une transition qui s'avère assez houleuse aussi, une génération qui est au pouvoir qui a du mal à finalement à pouvoir véritablement monnayer avec les jeunes générations qui demandent de la dignité, des libertés, mais aussi des réformes économiques. Donc l'Algérie doit surveiller aussi ses frontières avec la Tunisie et avec la Libye, puisque vous savez qu'actuellement il y a ce problème important de scission entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, incarnée par l'offensive du maréchal Haftar. Donc on est véritablement dans un lien vis-à-vis de la Tunisie qui n'est pas le même. De toute façon, les pays se ressemblent absolument pas, ils sont beaucoup trop différents, je dirais. La politique étrangère est tout à fait différente également. L'histoire avec la France a été aussi donc totalement décisive par rapport à ce qui a pu se passer au niveau des relations que la Tunisie a continué d'entretenir avec l'Europe et avec la France notamment, au moment des printemps arabes notamment. Donc je pense que effectivement la Tunisie, elle n'incarne pas la même chose pour l'Algérie. Elle est moins menaçante, si vous voulez. Après, la démocratisation tunisienne peut être aussi, bien sûr, une menace pour le régime actuel, mais pour les populations et les jeunesses algériennes, elle peut être aussi un espoir.
Ça peut avoir été une source d'inspiration, en tout cas, ces printemps arabes, alors qui ont eu des déclinaisons plus ou moins heureuses en fonction des pays, Akram Belkaïd, selon qu'on en était du côté de l'Égypte, de la Tunisie ou de la Libye ou de la Syrie, bien entendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans la rue algérienne, ce qui s'est passé dans les autres pays arabes, si la diplomatie algérienne, en tout cas, est peut-être, s'est constituée dans une forme de repli, est-ce que du côté des manifestants algériens, on observe et on essaie de s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs?
Alors, il y a énormément de débats là-dessus, parce que les séquences sont très intéressantes à suivre. Janvier-février 2011, les Algériens sont très attentifs à ce qui se passe à la fois en Tunisie, en Égypte, mais aussi en Libye. Et puis, je dirais qu'il y a eu un ressac, un reflux, provoqué notamment par l'intervention de l'OTAN en Libye, qui a refroidi beaucoup d'Algériens, qui a alimenté des théories du complot. Et donc, les printemps arabes, comme on les appelle, n'ont pas toujours eu, je dirais, une bonne réputation en Algérie, au moins chez une partie de la population. Aujourd'hui,
est-ce que le fait que ce soit des printemps arabes, justement, ça a pu jouer aussi? Si je vous dis ça, c'est parce que dans un de vos chapitres, Akram Belkaïd, vous dites que l'Algérie se pense pas forcément comme un pays arabe, en tout cas que les Algériens regardent non seulement assez peu du côté de l'Afrique subsaharienne, mais également assez peu du côté du monde arabe. C'est pas quelque chose de constitutif d'une identité algérienne, en tout cas.
Alors, ça existe parce qu'effectivement, que ce soit la linguistique, que ce soit les apports du Proche-Orient, ils existent. Hein. Je ne les nie absolument pas, mais je pense qu'en Algérie, comme au Maroc d'ailleurs, il y a une continuité de la singularité de ce qu'a toujours été le Maghreb, y compris à l'époque des califats abbassides ou omeyyades, c'est-à-dire c'est l'île du couchant, c'est-à-dire c'est un ensemble géographique qui est loin du cœur du monde arabe, qui ethniquement parlant est tout de même, je dirais qu'aujourd'hui les Algériens ont un substrat berbère qui demeure assez marqué, y compris chez les populations arabophones qui sont très différentes de par leur comportement, par leur tradition, par rapport au reste du monde arabe. Mais effectivement, l'aspiration de liberté, la chute de Moubarak, ça a été tout de même des grands moments en Algérie. Alors aujourd'hui, le débat, c'est est-ce qu'on s'inspire ou non de la transition tunisienne? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait regarder de près dans ce petit pays? Parce que côté algérien, on a tout de même tendance à regarder la Tunisie comme un petit pays, une population qui est quatre fois moins importante. Et donc, il y a des débats là-dessus. Est-ce qu'on peut refaire la même expérience tunisienne, c'est-à-dire avec une... Et là, on est dans l'actualité immédiate. Est-ce qu'on se contente de 3 mois de présidence par intérim et de nouvelles élections, ou est-ce qu'on fait comme les Tunisiens qui ont eu une transition tout de même un peu plus longue qui a débouché sur une assemblée constituante et de vraies élections ensuite qui ont suivi? Là, il y a un débat et il y a des positions assez tranchées de part et d'autre, ce qui démontre aussi une espèce de, je dirais, multiplicité des points de vue et des avis en Algérie.
Béliard Amli?
sur le modèle tunisien, a priori. C'est une tentation, mais une tentation depuis le début de l'expérience tunisienne. On s'est rapidement interrogé sur le fait de savoir si ce qui s'est dessiné à partir de 2011 en Tunisie pouvait servir de modèle pour le monde arabo-musulman. La réponse des politologues en général, elle est simple. Elle consiste à dire que, par définition, chaque société nationale et chaque État-nation entretient sa singularité, que par conséquent, il est difficile de concevoir une transposition d'une expérience aussi singulière. Et là, pour le coup, on a beau avoir, encore une fois, deux sociétés voisines, avec un substrat culturel, ethnique, religieux, etc., similaire, le parallèle, en tout cas la transposition, demeure difficile, notamment à cause de l'histoire récente, l'histoire contemporaine des deux pays, marquée notamment d'un côté, du côté tunisien, par un niveau d'éducation scolaire, de formation très élevé et pas récent pour le coup. Et deuxième donnée sociale très importante, c'est l'émergence et l'affirmation d'une classe moyenne précisément éduquée, qui a pu, à un moment donné, exiger que cette évolution sociale-là se traduise politiquement. En Algérie, on avait la structuration sociale n'était pas similaire. D'autant plus qu'il y a eu cette donnée structurante, qui est la guerre civile, qu'on peut pas oublier. Et tant mieux si aujourd'hui on tend à la dépasser, pas pour l'oublier, mais c'est une donnée qui, en 2011, ne permettait pas aux Algériens de prendre le relais. Mais j'en profite aussi pour dire qu'en 2011, il s'était passé des choses en Algérie. On était à deux doigts.
Absolument.
Et on fait comme si, premièrement, au Maroc, il s'était rien passé et qu'en Algérie, il s'était rien passé. Absolument faux. Il y a eu des émeutes urbaines avec aussi des slogans qui ressemblaient à ceux qu'on avait entendus en Tunisie. On a eu affaire à des immolations par dizaines, etc. Donc, on était à deux doigts. Mais le pouvoir, à l'époque, avait encore les moyens d'acheter la paix sociale, ce qu'il a fait de manière cynique, et ce qu'il n'est plus prêt à faire, parce qu'il n'a plus les moyens de le faire aujourd'hui.
Je précisais, Béliar Nabli, au début de l'émission, que vous avez signé un livre intitulé « Géopolitique de la Méditerranée ». Est-ce que la Méditerranée, le bassin méditerranéen, c'est une zone qui vous paraît finalement plus pertinente pour penser la place de l'Algérie dans son environnement, plus que le monde arabe, en tout cas, ou plus que l'Afrique?
Plus pertinente, non, mais intégrée absolument. C'est pour ça que, par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est faire on a parlé de la Tunisie et du Maroc parce que ça nous semble naturel. Mais moi, tout naturellement aussi, la France est un pays voisin, extrêmement imbriqué avec la réalité algérienne, dans les deux sens du terme, à cause notamment d'une réalité humaine. Et en ce sens, ce qui se passe en Algérie nous concerne également ici en France.
Akram Belkaïd.
Oui, et puis il y a deux autres pays dont on parle peu, mais qui sont aussi actifs, l'Italie, l'Espagne. Et donc ça amène à réfléchir sur cette Méditerranée occidentale qui fait sens, qui fonctionne par certains aspects, notamment sur les plans sécuritaires, les fameux 5+5 qui se réunissent de manière régulière, 5 pays du Nord, 5 pays du Sud, mais qui ont du mal à exister autrement parce que d'un côté on a l'Union européenne, de l'autre on a cette bien piteuse Union du Maghreb arabe qui est une coquille vide et qui n'arrive pas à s'organiser. Mais en tous les cas, on voit bien...
L'Union pour la Méditerranée à une époque.
Oui, alors qui était une espèce de construction totalement artificielle parce que...
Ça existe toujours. Hein. Ça existe mais vous avez toujours. Raison de parler au passé en même temps. Je
crois, voilà, alors, je crois que la structure existe, mais voilà, qu'il n'y a plus grand-chose dedans.
Il y a un rendez-vous en juin prochain pour essayer de relancer ça à Marseille. Je crois qu'il y a un sommet des chefs d'État méditerranéens qui va se tenir. On va voir ce qui va en sortir. Mais tout ça pour dire... alors. Sur le soft power algérien, il y a beaucoup d'Algériens qui aimeraient revoir leur pays incarner quelque chose sur le plan régional, national. Il y a peut-être des choses qui vont apparaître au cours des prochains mois si la situation se décante dans un sens positif. Je pense à l'aspect environnemental. Je suis frappé par la qualité et l'importance des revendications environnementales qu'on peut voir passer en Algérie. Et notamment, n'oublions pas que l'un des précurseurs du mouvement actuel, ça a tout de même été les contestations contre l'exploitation des gaz de schiste dans le sud algérien.
Et bien, merci beaucoup à tous les trois, Akram Belkaïd, Béliar Nabli et Anne-Clémentine Larocque d'avoir participé à cette discussion. Les ouvrages des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster, Cyril Marchand. Émission réalisée par Émilie Vallat avec à la prise de son Élise Leu.